Parce que les influences médiatiques sont subtiles, cumulatives, et qu'elles adviennent sur une longue période de temps, parents, pédiatres et éducateurs peuvent ne pas être conscients de leurs impacts.
What is right and what is wrong?
Garde les yeux grands ouverts.
Les bras ouverts, les yeux grands ouverts.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Il faut une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait servir dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excusez-moi, c'est une mauvaise blague.
Que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Canu et dans l'émission Les Yeux Grands Ouverts. Il est 23h10 et nous allons ce soir parler de la télévision. Avant de commencer l'émission, comme d'habitude, je voudrais remettre à jour les petites actus concernant l'émission. Sachez que vous pouvez suivre l'actu de l'émission sur Facebook, sur le fameux réseau social. Vous tapez Les Yeux Grands Ouverts tout au pluriel dans la barre de recherche. Vous allez tomber sur la page de l'émission. Il vous suffit de cliquer sur j'aime et de s'abonner au fil de l'actualité de cette page et tout sera affiché dans votre fil et vous saurez ainsi tout ce qui se passe dans l'émission Les Yeux Grands Ouverts avant que les émissions commencent le soir. Et il y a des petits documents aussi qui sont quelquefois partagés, etc. Donc ça peut être intéressant. Vous avez le blog aussi sur le blog de Radio Canu qui permet de réécouter tous les podcasts des anciennes émissions sur les différents thèmes qu'on a pu évoquer depuis le début depuis le commencement de cette émission, notamment sur l'autodéfense intellectuelle, sur le neuromarketing et tout un tas de sujets divers. Et donc l'adresse de ce blog c'est blogs.radiocanu.org/les-yeux-grands-ouverts tout au pluriel. Si jamais vous êtes un peu en galère pour arriver à retranscrire toute cette adresse, vous allez directement sur le site, tapez sur le planning de Radio Canu avec toutes les émissions qui sont indiquées heure par heure, vous cliquez sur les yeux grands ouverts, et vous serez redirigé directement vers le blog où sont présents tous ces fameux podcasts. Il y a également une boîte mail, hein, les yeux grands ouverts, toujours tout au pluriel, @laposte.net, si vous avez des informations à faire circuler ou quoi que ce soit de différent. Et bien entendu, je vous rappelle, alors là, ça ne concerne plus que les yeux grands ouverts, mais Radio Canu en général, toute la radio, que Radio Canu est encore en campagne de soutien. Donc envoyez vos dons à Radio Canu au Radio Canu, boîte postale 1101-69-201, Lyon, CEDEX 01. Ce qui permettrait, grâce à vos dons, de pérenniser l'activité de Radio Canu, d'acheter des locaux pour assurer notre activité, car les loyers sont de plus en plus chers sur Lyon et la radio a de plus en plus de mal à subvenir à ses besoins. Voilà pour ce qui est des infos qui concernent l'émission et Radio Canu, que vous pouvez écouter sur le 102.2 FM ou également sur Internet, soit directement sur le site ou sur plusieurs endroits. Hein. Il y a un peu des plateformes qui permettent d'écouter la radio un peu partout sur Internet. Donc voilà pour toutes les infos concernant Radio Canu et les yeux grands ouverts. Nous allons commencer comme à notre habitude depuis la nouvelle année par le torchon.
Dans le mic, entre deux repas de soufflé, inutile torchon.
On mélange pas les torchons et les sopalins. C'est compliqué.
Alors, le torchon. Alors, ce soir, il y a plusieurs sujets qui vont être évoqués dans ce torchon. Alors, tout d'abord, un premier dont je voudrais faire part. C'est un sujet qui concerne la religion et tout ce qui est évoqué en ce moment dans les médias. Alors en ce moment, beaucoup de questions se poussent sur les religions. Il est vrai qu'une en particulier est plus victime de ces interrogations, sous prétexte que certains aimeraient savoir si elle est ou si elle serait éventuellement compatible avec la République, etc., etc. Vous aviez très bien compris de quelle religion je parlais, hein. Il s'agit de la religion musulmane. Elle est au centre des débats, mais au passage, les autres obédiences sont affichées, brandies sous différents prétextes, soit pour être comparées à islam, soit pour être valorisé en mettant en évidence que, soi-disant, elle se serait intégrée à la République, alors que d'autres ne le permettraient pas. Alimentant ainsi la stigmatisation des musulmans. Toutes ces croyances sont peut-être respectables, ces livres confessant les vérités immuables gravées dans le marbre ont certainement de bonnes raisons d'attirer autant de fidèles, mais il en est assez. Pour commencer, ont-ils le monopole de Dieu ? Au même titre que ceux qui se réclament de tous ces livres. Et si toutes ces versions racontant l'histoire d'un être supérieur étaient dans le faux, si Dieu ne se réclamait d'aucune de ces histoires, si les croyances étaient totalement libres, tout le monde peut croire au Dieu qu'il veut sans appliquer à la lettre tout ce que disent ces livres. Comme si l'on pouvait n'être communiste que si l'on appliquait à la lettre le manifeste du Parti communiste de Marx et Hegel. Des grands penseurs ayant fait avancer les mentalités ou même le sort de l'humanité étaient des croyants très sceptiques, du genre Jaurès, Hugo ou Robespierre, qui étaient croyants et radicalement anticlérical et contre l'Église, et contre beaucoup des textes. Ils avaient une philosophie de Dieu qui était particulière. Il est donc inutile de prétendre... se prétendre défenseur d'une parole appliquée à la lettre. Et si Dieu dans tout ça il existait, qu'aurait-il à faire de toutes ces différences entre les textes et toutes ces histoires? Je crois que si l'hypothétique existe, il se fiche de tout ça et regarderait uniquement ce qu'il trouve dans le cœur de chacun d'entre nous, plutôt que de croire les gens sur parole. De plus, si dans tous ces débats sur les religions, on avait omis certaines personnes, notamment ceux qui ne croient pas, et si eux en avaient aussi ras-le-bol d'entendre parler des religions et de Dieu du matin jusqu'au soir, s'ils préféraient parler de la vie, du monde, des gens, de la culture, s'ils préféraient analyser la société, a-t-on pensé une seconde à respecter leur non-croyance? J'en ai pas l'impression, car en ce moment, les médias ne parlent absolument que de ça. Pensons donc à proposer à l'avancée des mœurs bénéfiques pour notre société le respect des non-croyances au respect des croyances. Il y a un autre petit sujet que je voulais évoquer. Des locataires de la résidence d'Allen, alors c'est géré par Saint-Ouen, je sais pas quoi là, se sont indignés en découvrant le 15 décembre des notes d'information à caractère pour le moins surprenant qui s'affichent depuis quelques jours dans les halls d'immeubles des logements sociaux de Saint-Ouen. L'office d'habitat public menace tout simplement de sanctions pouvant aller jusqu'à l'expulsion ces locataires qui viendraient en aide aux sans-abri ayant trouvé refuge dans les halls d'immeubles. La mise en garde est affichée dans ces termes. Nous attirons votre attention sur le fait que vous exposez à une procédure d'expulsion pour non-respect du règlement intérieur et en application de votre bail. S'ensuit tout un tas d'alinéas précisant ces fameuses modalités, et un de ces fameux alinéas décrit une situation en ces termes. Si vous fournissez à des sans-abri tout élément logistique ou si vous les nourrissez, les incitant par la même demeure à rester sur les lieux squattés. Donc c'est une injonction qui, pour commencer, dépasse le cadre légal, puisque la loi ne prévoit aucune sanction pour avoir offert à manger à quelqu'un. Mais sans se contenter de regarder dans les gros bouquins administratifs, on est en droit de se poser des questions sur le sens moral de certaines actions. Bien entendu, il ne fait plaisir à personne que certaines personnes soient démunies au point de venir squatter les halls d'immeubles pour s'abriter, mais doit-on pour autant les laisser crever la gueule ouverte? Soyons ironiques sans l'être. Ce qui ressort de ce genre de remarques, c'est que l'on réexclut le SDF, qui est déjà dans une situation où il est totalement exclu de la société, mais à plus forte raison, dans ce cas, on l'exclut carrément du genre humain. Puisque là, dans la situation présente, on le compare à un vulgaire pigeon qui pourrait proliférer si on lui fait croire qu'il est le bienvenu et qu'on lui donne à manger. Ce genre de mot est en général accolé sur les grandes places publiques, hein, ou devant certains monuments, en ces termes, prière de ne pas nourrir les pigeons. Et oui, parce que l'on sait tous que lorsque l'on nourrit ces braves bêtes, elles se soulagent partout et envahissent les lieux concernés. Ont-ils peur que les SDF s'envolent et leur défèquent sur le nez? C'est une affaire à suivre. Voilà, et donc, c'est totalement honteux. Alors un autre sujet, celui-là c'est un papier de Chomsky qui est sorti dans la semaine suite aux événements qui sont arrivés à Charlie Hebdo. Alors le Monde a été horrifié par l'attaque meurtrière du journal satirique français Charlie Hebdo. Dans le New York Times, le correspondant européen de longue date Steven Erlanger a décrit de manière saisissante les répercussions immédiates de ce que beaucoup désignent comme le 11 septembre français. Ce fut une journée au cours de laquelle se succédèrent des sirènes retentissantes et des balais d'hélicoptères. Une journée de frénésie médiatique, de cordons de police, de foules en panique et de jeunes enfants éloignés des écoles par mesure de sécurité. Une journée à l'instar des deux qui suivirent, de sang et d'horreur à Paris et aux alentours. L'immense tollé mondial déclenché par l'attentat fut accompagné d'une réflexion sur les racines profondes de cette atrocité. Nombreux sont ceux qui y voient un choc de civilisation. C'est ce que titrait un article du New York Times. Les réactions d'horreur et d'indignation envers ces crimes sont justifiées, tout comme la recherche des causes profondes, tant que nous gardons fermement à l'esprit quelques principes. La réaction devrait être complètement indépendante de l'opinion qu'on se fait de ce journal et de ce qu'il produit. Les slogans omniprésents du style « Je suis Charlie » ne devraient indiquer, ni même sous-entendre, aucune association avec le journal, du moins dans le contexte de la défense de la liberté d'expression. Ils devraient plutôt exprimer une défense de la liberté d'expression, quoique on puisse penser du contenu, même si ce dernier est jugé méprisant et dépravé. Et ces slogans devraient aussi exprimer la condamnation de la violence et de la terreur. Le dirigeant du Parti des travailleurs d'Israël et principal opposant pour les élections à venir, Isaac Herzog, a bien raison quand il dit « le terrorisme, c'est du terrorisme ». Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a aussi raison de dire « toutes les nations qui souhaitent la paix et la liberté font face à un défi énorme ». à cause du terrorisme meurtrier si on met de côté son interprétation sélective du défi. Erlanger décrit de façon frappante la scène d'horreur. Il cite l'un des journalistes suivants comme ayant dit « Tout s'est effondré, il n'y a aucune issue, il y avait de la fumée partout, c'était terrible, les gens criaient, c'était un cauchemar. » Un autre journaliste survivant rapporta « Une immense déflagration avant d'être plongé dans l'obscurité la plus totale. » La scène, rapporta Erlanger, était de plus en plus familière avec ses débris de verre, ses murs effondrés, ses boiseries arrachées, ses peintures déchiquetées et sa dévastation émotionnelle. Au moins 10 personnes seraient mortes dans l'explosion et 20 disparues, probablement enfouies sous les décombres. Alors cette citation qu'on vient d'entendre, comme nous le rappelle l'infatigable David Peterson, ne date pas de janvier 2015 et de cette affaire de Charlie Hebdo. Elles sont en réalité extraites d'une histoire rapportée par Erlanger le 24 avril 1999, qui n'eut droit qu'à la 6e page du New York Times, n'atteignant donc pas l'importance de l'attaque de Charlie Hebdo. Erlanger y décrivait le tir de missile sur le siège de la télévision d'État serbe par l'OTAN. Comprenez en gros l'OTAN, les États-Unis, qui fit taire la radiodiffusion serbe de manière très radicale. Il y eut un communiqué officiel de l'OTAN. L'OTAN et les représentants américains ont justifié l'attaque, rapporté Erlanger, comme une tentative de déstabilisation du régime du président Slobodan Milosevic de Yougoslavie. Le porte-parole du Pentagone, Kenneth Bacon, rapporta lors d'une conférence à Washington que la télévision serbe faisait partie intégrante de la machine meurtrière de Milosevic, autant que ses forces armées, ce qui en faisait donc une cible légitime d'attaque. Selon eux, le gouvernement yougoslave a déclaré que la nation entière soutient le président Slobodan Milosevic. Rapporte Erlanger qui ajoute, comme le gouvernement sait cela avec autant de précision, demeure plutôt flou. Alors aucun commentaire aussi sardonique ne serait le bienvenu quand on lit que la France est en deuil et que le monde est outré par cette atrocité. Il n'est pas nécessaire non plus de chercher les causes profondes ni de se demander qui représente la civilisation et qui représente la barbarie. Isaac Herzog se trompe donc lorsqu'il affirme que le terrorisme c'est du terrorisme. Il n'y a aucun doute là-dessus. On peut affirmer qu'il existe en doute. Le terrorisme ne s'appelle pas terrorisme dans le cas d'une attaque bien plus violente, mais menée par ceux qui sont dans leur bon droit, ceux dont le pouvoir fait la vertu. De la même façon, il n'y a pas atteinte à la liberté d'expression quand ces vertueux détruisent une chaîne de télévision soutenant le gouvernement qui l'attaque. De la même manière, on comprend facilement le commentaire dans le New York Times de l'avocat des droits civiques Floyd Abrams, connu pour sa défense passionnée de la liberté d'expression, déclarant que l'attaque de Charlie Hebdo est l'assaut le plus menaçant sur le journalisme de mémoire d'homme. Il a raison de préciser « de mémoire d'homme », ce qui range déjà les assauts sur le journalisme et les actes de terreur dans leur catégorie propre, les leurs qui sont affreux et les nôtres qui sont vertueux et facilement effaçables de la mémoire d'homme. Voilà, donc c'est intéressant de ce papier de Chomsky qui soulève le fait qu'il y a des indignations qui sont très sélectives, puisque là on s'est indigné à juste titre pour le meurtre de plusieurs personnes dans les locaux de Charlie Hebdo, alors qu'à d'autres moments, l'administration américaine s'est bien permis elle-même d'aller bombarder carrément des bâtiments prévus pour des journalistes, certes des journalistes d'État, mais des journalistes tout de même, avec des trentaines de morts, hein, bon, qu'on a bombardé sans aucun scrupule, enfin qu'on a bombardé, que les Américains et l'OTAN ont bombardé sans aucun scrupule, et là, ça n'a pas fait la une de tous les journaux, et il n'y a pas eu une solidarité mondiale après ce genre d'événement. Voilà, c'est pour replacer un peu les choses dans le contexte, et là-dessus, Noam Chomsky est implacable, parce qu'il a une mémoire des faits qui est assez impressionnante, et il arrive toujours à retrouver des histoires où on a à peine parlé de certaines choses qui ont été exécutées par les États-Unis d'Amérique de manière honteuse, et derrière, on a fait scandale sur d'autres affaires pour légitimer l'action des États-Unis d'Amérique. Bref, donc voilà pour le torchon. Nous allons passer un petit morceau avant de commencer le thème de ce soir qui est la télévision. Je vous le rappelle, on va se passer un morceau du groupe américain Tool qui s'appelle Stinkfist.
La rage dans le mic.
Vous êtes toujours dans Les Yeux Grands Ouverts sur Radio Canu, il est 23h30 pile poil. Et nous allons parler de la télévision ce soir, comme lors de la semaine dernière. Nous avons déjà un peu commencé à évoquer ce sujet. Nous appuyons ce petit exposé que nous faisons sur les effets scientifiques de la télévision, sur les conférences et le bouquin de Michel Desmurget qui s'appelle TV Lobotomie, qui est aux éditions Max Milo, que vous pouvez vous procurer comme vous voulez. Je vous le recommande très chaudement. C'est un livre super intéressant sur les effets de la télévision à long terme. Bien entendu, comme un peu toutes les choses qui toutes les études qu'on mène au niveau scientifique, il faut beaucoup de recul pour arriver à se rendre compte de la dangerosité ou non de certains produits ou de certaines choses qui sont entrées dans les mœurs. C'est pour ça que les études tardent un peu à sortir, et puis il y a certaines institutions qui n'ont pas trop envie que ces études ne sortent non plus, hein. c'est pas vraiment recommandable. Au même titre qu'on a appris très longtemps après que le tabac était vraiment très dangereux, alors que pendant certaines périodes il était limite recommandé par certains médecins, etc., etc. Et bien aujourd'hui il commence à y avoir des études qui montrent que la télévision a des effets nocifs et qu'elle est préjudiciable pour le cerveau humain et pour plein d'autres choses. Donc on a commencé à évoquer tous ces aspects la semaine dernière. Et la semaine dernière, on a parlé de plusieurs choses. Déjà, je tenais à signaler que le podcast de l'émission de la semaine dernière ne serait pas disponible parce qu'il y a eu un petit souci technique et le podcast a disparu. Voilà, il a été endommagé et il a disparu. Bref, donc je fais un petit résumé grosso modo de ce qui était dit la semaine dernière. Que déjà pour commencer, la télévision n'est pas un espace culturel, contrairement à ce que certains voudraient bien dire. Enfin, n'est pas que un espace culturel, car quand on voit la qualité des programmes, ça a été mis en valeur par le fait que les gens disent qu'ils préfèrent regarder Arte parce qu'ils aiment les documentaires, mais quand on voit les résultats d'audience, on se rend très bien compte que ce qu'ils regardent le plus, c'est surtout Dr House et les choses comme ça. Alors voilà, après il y a des études scientifiques qu'on a commencé à évoquer qui disaient que les effets de la télévision sur la scolarité des jeunes enfants étaient assez importants. Alors notamment, on était arrivé à sortir des chiffres, certaines études scientifiques l'ont montré, ce que je reprécise, hein, que les études scientifiques qui sont menées prennent à chaque fois en compte tout ce qui est du désordre social et de tout un tas de critères, hein, qui concernent les individus qui sont sondés, hein, rien n'est pris au hasard, et en fait l'objectif c'est de prendre un échantillon très large de la population ou ciblé en fonction de ce qu'on essaie de chercher, et de faire ressortir à travers tout un tas de statistiques les critères qui peuvent avoir une influence sur les résultats scolaires ou autre chose. Donc par exemple, on était arrivé à la conclusion, pour un enfant en primaire, une heure de télévision par jour, ça augmente de 43% le risque qu'il sorte de l'école sans diplôme. C'est pas le seul facteur, mais ça augmente les chances, bien entendu. Donc un ado de 14 ans aussi qui regarde la télé moins de 2 heures par jour et qui a été suivi pendant 2-3 ans, tous ceux qui ont augmenté leur quantité de télé durant ces 2-3 ans ont augmenté leur chance d'échec scolaire de 50%, et ceux qui ont diminué leur quantité de télévision ont diminué leur risque d'échec scolaire de 50%. Ce qu'on appelle échec scolaire, c'est le redoublement ou le fait de se faire virer de l'école ou enfin d'avoir une scolarité un peu perturbée. Alors aujourd'hui, les sujets qu'on va évoquer, notamment en première partie, c'est les méfaits de la télévision sur ce qu'on appelle l'attention. Alors, Michel Desmurget le met en valeur dans ses termes. Il dit qu'un jour, une mère lui a dit « Moi, qu'on me dise que la télévision, ça abîme l'attention des gens, j'y crois pas une seconde, parce que je mets mon gosse devant la télé, je le plante, je vais faire mes affaires, je fais ce que je veux à côté pendant une heure ou deux, et je reviens, et mon gosse, il est devant la télé, il a pas bougé, donc ça a aucun effet sur son attention. » Puisque elle estime que comme le gamin n'a pas bougé, c'est que son attention fonctionne impeccablement. Ce qu'il faut expliquer en fait, c'est qu'il existe deux types d'attention. Alors il y a ce qu'on appelle l'attention captée, donc c'est votre environnement qui vient capter votre attention. C'est quand quelque chose vous surprend, que ça peut arriver. Si quelque chose qui fait du bruit ou n'importe quoi, vous allez essayer de le regarder pour comprendre ce qui se passe. C'est un réflexe neurologique normal. comme n'importe quel réflexe de survie en fait. C'est que si jamais il vous arrive quelque chose, par exemple que vous risquez d'être attaqué par une bestiole, imaginons que ce soit un réflexe instinctif, c'est pour vous défendre du danger, il faut que vous soyez attentif, donc votre attention captée est très importante. Et c'est un petit peu en fait comme lorsque un docteur vous tape avec le marteau sur le genou et que ça vous fait par vos réflexes, ça vous fait bouger la jambe sans que vous ayez rien demandé à personne. Donc c'est un peu dans le même style. Donc les raisons qui font qu'on utilise cette attention captée, c'est donc se défendre du danger. Si c'est par exemple vous êtes dans la nature ou je ne sais quoi, quelque chose vient vous attaquer ou quoi que ce soit, c'est important d'avoir ce réflexe attentionnel qui est prêt à réagir à ce qui se passe autour. Mais aussi ça peut être lorsqu'il y a quelque chose que vous devez attaquer, donc du coup votre attention peut être captée aussi par cette chose qui vous intéresse. Voilà, c'est donc un réflexe instinctif. Et c'est ce système qui est sollicité par la télévision lorsque vous la regardez. Une image qui est envoyée, et elle est envoyée pour capter votre système attentionnel. Alors, par exemple, le gamin qu'évoquait Michel Desmurgeys, dont je parlais tout à l'heure, dont la mère faisait référence, le gamin devant la télé qui réagit en tournant les yeux et en bloquant, en fait, il devient tout complètement marteau. Car on sollicite constamment un réflexe qui normalement doit être très peu utilisé par le cerveau humain, qui doit être utilisé que dans des conditions très exceptionnelles. C'est pour ça qu'un gosse qui regarde la télé avant d'aller à l'école, par exemple, il va être épuisé au niveau cérébral, parce que ça mobilise beaucoup trop de ressources cérébrales qui sont inhabituellement utilisées avec autant de force. Et ces réflexes-là finissent par fatiguer le cerveau. Donc, quand un gamin a beaucoup regardé la télé et qu'après il va à l'école, quand il arrive à l'école, vous vous retrouvez avec une espèce de zombie qui est sur pied, bien sûr, hein, qui marche, qui est encore vivant, il n'y a pas de souci, hein, bien entendu. Son cerveau marche à peu près, mais son cerveau est quand même un peu fatigué. Il est mis dans une position de réflexe attentionnel et qui fait qu'il lui faut un petit moment pour que le cerveau redémarre, qu'il recapte un peu, qu'il reprenne de l'énergie, qu'il arrive à se reconcentrer. Donc ça, c'est le premier type d'attention qui est capté par la télévision. C'est ce qu'on appelle l'attention captée. Et il y a un deuxième type d'attention qui s'appelle l'attention dirigée. Alors là, c'est le cerveau qui va mettre toutes ses ressources sur une tâche donnée. C'est aussi ce qu'on certains pourraient appeler la concentration, hein, c'est du même ordre. Le cerveau se penche sur un objectif, il élimine tout ce qui n'est pas pertinent autour de lui. C'est donc ça qui est à l'origine de la colonne vertébrale de l'intelligence. L'attention qui est le chef d'orchestre et... Et en fait, c'est votre cerveau qui va filtrer tout ce qui se passe, qui élimine le mauvais, toutes les choses qu'il considère comme pas intéressantes à ce moment-là. Il inhibe les interférences, en gros. Et tout cela, ça s'apprend au plus jeune âge, durant que le système nerveux et cognitif se construit. Après, une fois qu'on a passé certaines étapes, il est trop tard, il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. Ce qui développe cette attention dirigée, quand on est petit, c'est par exemple les jeux, le sport, la lecture, l'écoute musicale, etc. Plein de choses, la conversation, tout ce que vous voulez. Alors cette attention, elle se construit tout au long de la vie. Malheureusement, comme je vous expliquais, c'est un peu comme une tour. Si les fondations correspondantes à ce qui a été appris au plus jeune âge ont été mal fondées, si ça a été mal construit, si les fondations sont mal posées, eh bien l'édifice, en fait, il peut pas monter très haut. Si jamais, dès le plus jeune âge, l'enfant n'a pas été éduqué à utiliser avec beaucoup de concentration et sur le long terme cette attention dirigée, eh ben il risque d'avoir du mal à se concentrer dans le reste de sa vie. Et même si derrière on essaie de faire des efforts pour rattraper ça, au moment où l'esprit cognitif s'est construit, s'il a été mal construit, qu'il a été perturbé par certaines choses, eh ben c'est difficile de rattraper le retard. Et même sur certaines choses, Monsieur Desmurgeys laisse sous-entendre que c'est même impossible. Voilà, alors c'est pour qu'on comprenne déjà pourquoi la télé est un mauvais ressort pour le cerveau en premier lieu. C'est qu'il utilise un type d'attention qui est particulière. C'est l'attention captée. Et ça fatigue énormément votre cerveau. Alors, par exemple, pour en revenir à ce que je disais sur le fait que cette attention met à mal le cerveau, surtout dans la petite enfance, des études statistiques montrent que une heure de télévision par jour à 3 ans et les chances de troubles attentionnels à 8 ans sont multipliées par 2. Donc si votre enfant, vous le mettez tous les jours une heure devant la télé quand il a 3 ans, vous avez deux fois plus de chances qu'il soit un peu perturbé au niveau comportemental quand il sera arrivé à 8 ans. de 5 à 11 ans, si vous utilisez le même ressort devant la télévision, c'est-à-dire vous le mettez une heure par jour, les troubles attentionnels à 13 ans risquent d'augmenter de 50%. Enfin, il y a des chances, il y a 50% de chances en plus que votre enfant ait des troubles attentionnels si de 5 à 11 ans il a passé une heure par jour devant la télé. Voilà. Et bien sûr, quand je parle des statistiques qui ont été captées, qui ont été réceptionnées sur les enfants de 3 ans et sur celles des enfants de 5 à 11 ans, et ce ne sont pas deux statistiques qui se différencient l'une des autres, c'est-à-dire qu'elles s'ajoutent. Donc en fait, si votre enfant il a regardé beaucoup la télé à 3 ans et qu'il l'a regardé aussi beaucoup de 5 à 11 ans, et ben ça fait que ça multiplie par 2, puis ça rajoute encore 50% à ce x2 qui était juste avant sur les risques de troubles attentionnels. Alors bien entendu, la télévision n'est pas responsable de tout, bien normal, c'est tout à fait logique, on peut pas dire que c'est que ça, mais c'est un des critères qui ressort sur les problèmes attentionnels des enfants. Et c'est les études scientifiques qui ont été menées très rigoureusement qui le montrent, même si ça ne fait certainement pas plaisir à certaines personnes, c'est la vérité. Alors par exemple, une heure par jour de télévision à 14 ans, et c'est plus 44% aussi de troubles attentionnels à 16 ans. On pourrit les instits, hein, au final, personne ici ne l'a dit, mais certaines personnes le disent, que les instits font mal leur boulot, ou que l'école, l'éducation nationale est complètement à la ramasse en ce moment et qu'elle n'arrive plus à éduquer les enfants comme il faut. Mais il faut peut-être se poser des questions de savoir si l'éducation nationale est vraiment la seule responsable de ce qui se passe. Alors, voilà pour tout ce qui est du développement attentionnel, mais on n'en a pas encore fini, bien entendu. Alors, expliquer le développement attentionnel, on va essayer d'expliquer un peu. Il peut être perturbé par la télévision. Alors, par exemple, si vous êtes chez vous, que vous avez votre gosse, que vous avez du repassage à faire ou je ne sais pas, n'importe quoi, ce qui peut arriver, c'est que bon, on a tendance, l'enfant nous prend un peu la tête parce qu'on n'a pas l'occasion de s'en occuper vraiment. On veut pouvoir vaquer à nos occupations, donc on va le mettre dans un parc ou on va lui trouver des jeux pour arriver à l'occuper 5 minutes et pouvoir faire notre truc. Alors, sans la télévision, un gamin, il va s'amuser dans le parc, il va faire sa petite vie, il va jouer avec Sophie la girafe, il va faire plein de trucs, des choses qui pour vous vont vous paraître inutiles. Vous dites que le gamin il fait rien, qu'il apprend rien et ses jeux sont vraiment presque inutiles à ce moment-là. Et en fait, c'est totalement faux parce que ce qui explique Demiurgès qu'à ce moment-là dans son cerveau c'est un vrai feu d'artifice. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Il joue avec des trucs, il regarde, il touche, il apprend à saisir certains objets, il y arrive pas. Plus ça va, plus il insiste, bien sûr il n'y arrive pas, il passe à autre chose, etc. Mais il progresse petit à petit. Et pendant ce temps-là, papa ou maman va repasser devant la télévision ou faire ce qu'il veut. Et pendant que l'enfant est en train de jouer, si jamais il y a la télévision qui est à côté, il y a des moments où il va y avoir une image ou un son qui va être plus fort. Et l'enfant, il va être perturbé dans son jeu, et dans son apprentissage et sa concentration par cette attention qui va être captée, comme ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la télévision est faite pour ça, hein. Elle est faite pour capter l'attention. Donc l'enfant qui sera par exemple dans un jeu où il va prendre Sophie la girafe par la tête, il va faire ce qu'il veut, et au moment où il va être capté par cette image, par ce bruit, et ben il va lâcher Sophie la girafe. Et donc du coup tout le mécanisme cognitif qui sera mis en place à ce moment-là pour commencer la formation du cerveau et pour apprendre à coordonner les mouvements et tout va être cassé. L'enfant va avoir son attention captée par la télé et ça va totalement briser le mouvement qui était en cours. Ça casse la construction du système attentionnel. Donc des fois on se dit bon, si le gamin je le mets pas devant la télé directement ça craint rien, mais non, juste le fait des fois qu'il soit dans un environnement où il y a la télé qui est à côté de lui et qu'il est en train de vaquer à d'autres occupations, ça peut le perturber dans son développement. C'est un peu comme nous, comme n'importe quel être humain, quand vous êtes en train de bosser sur quelque chose, hein, vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train de lire, vous faites ce que vous voulez, et qu'à ce moment-là, vous avez votre téléphone ou je sais pas quoi qui sonne, ou quelqu'un qui vient vous déranger, il vient vous poser une question, ou on vous demande de faire une petite bricole qui va durer 2 secondes, mais au moment où vous allez faire cette petite bricole qui va durer 2 secondes, et que vous allez revenir sur votre première occupation, et ben, il va vous falloir un bon moment pour arriver à vous reconcentrer et à vous remettre dans ce que vous étiez en train de faire. Parce qu'on vous a cassé dans votre concentration, dans votre attention dirigée, que vous avez votre attention qui a été captée par autre chose, et donc ça vous perturbe, et il vous faut toujours un petit moment pour que le cerveau redémarre et se remette dans l'activité qu'il était en train d'exécuter. Donc c'est ce réflexe là qui est ce dérangement là qui est souvent à l'origine de la télévision, qui va complètement perturber le développement cérébral du petit enfant qui joue et qui apprend à se servir de ses membres et de son cerveau. Voilà, pour ce qui est de l'attention et du développement attentionnel, dira-t-on, du développement cognitif au tout petit âge. On va peut-être se passer un petit morceau, parce que là c'est très dense, hein, je parle beaucoup, ça doit être un petit peu lourdingue. Alors on va s'aérer un peu les méninges, 5 secondes. On va s'écouter... Si on va s'écouter un morceau. On va s'écouter un morceau de Stereotypical Working Class qui s'appelle « Silence ». Les yeux grands ouverts, Radio Canu, 102.2 FM, il est 23h49, et bientôt 30 secondes, oulala, cette nouvelle horloge est magnifique. Nous parlons toujours de la télévision ce soir, dans Les yeux grands ouverts, et nous étions sur le point d'évoquer le langage. J'ai terminé un peu d'expliquer ce qu'était le fonctionnement attentionnel du cerveau, et le mécanisme que venait perturber la télévision, hein, cette attention captée, et non l'attention dirigée qu'elle utilise, donc ça fatigue énormément le cerveau, et en même temps ça le fatigue sans spécialement lui apprendre à se construire, parce que ça le perturbe dans sa concentration. Voilà ces mécanismes qui peuvent d'où peuvent découler certaines mauvaises constructions du système cognitif lorsque l'on est tout petit et qu'on est exposé à la télévision au moment des apprentissages les plus simples et les plus basiques de la vie. Alors il y a une autre chose qui ramasse un petit peu, qui déguste à cause de la télévision, et c'est le langage. Alors c'est l'une des choses, selon M. de Murget, qui en pâtit le plus à cause de la télévision. Alors les étudiants américains, ils passent une espèce de petit test, hein, l'équivalent de, je sais pas ce qu'on pourrait appeler, un espèce de brevet bizarroïde, qui s'appelle le SAT, S-A-T. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire, c'est des dénominations. Et ils passent ces examens quand ils entrent aux universités, dans les universités américaines. Alors en fonction des notes, ils sont orientés dans des universités plus ou moins prestigieuses, en fonction du résultat qu'ils ont eu, quoi. Alors, ils se sont rendus compte, dans les années 60-70, qu'il y avait une note moyenne de 550. C'était la note moyenne générale, hein, de tous ces tests. Et ils se sont rendus compte que pendant quelques années, genre en l'espace d'une dizaine d'années, la moyenne, les notes se sont effondrées, de 10%. Alors ils se sont posé plein de questions, hein, comme beaucoup, il y en a qui cherchent, ils essayent de savoir ce qui se passe dans la société. Il y a des gens qui sont payés pour ça d'ailleurs, hein, et tant mieux. C'est un petit peu d'ailleurs pour essayer de mettre plus en avant le paradoxe, 10% de baisse, parce que comme ça c'est qu'un chiffre, on arrive à se demander. C'est comme si la médiane d'intelligence et des notes, aujourd'hui on disait qu'elle était à 100, et que dans 10 ans elle passait à 90. Ça fait quand même, c'est pas négligeable, ça fait quand même une baisse assez importante. Alors, ils ont cherché, et ils se sont rendus compte qu'à un moment la perte s'est un peu stabilisée. Alors il y a des scientifiques qui sont interrogés sur ce sujet. Alors il y a eu tout un tas d'hypothèses diverses, hein. Il y a même des hypothèses de racistes, hein, qui ont été évoquées. Certaines personnes qui ont osé dire que cette baisse de résultats était due à l'arrivée des minorités noires ou hispaniques dans les universités, hein. Ils ont osé sortir des trucs comme ça. Il y a même eu des hypothèses sur les professeurs, hein, sur la qualité des professeurs, sur la qualité des livres qui permettaient d'enseigner aux enfants. Ils se sont posé la question de savoir est-ce que les livres qu'on donnait aux nouveaux étudiants étaient moins bien faits que ceux qu'on avait donnés aux anciens. Malheureusement, toutes ces études qui ont été un peu poussées n'ont apporté aucun résultat qui était concluant et qui corrélait vraiment par rapport aux baisses sensibles des résultats. Et rien ne corrélait. Et c'est un jour, c'est une psychologue qui s'est demandé ce qui s'est passé au moment où leur langage s'est développé. Ils se sont posé la question, comment ça se fait? Ils se sont posé la question de savoir d'où venait éventuellement ce problème. Cette psy s'est dit, peut-être que ça viendrait du développement du langage. Souvent, c'est la colonne vertébrale, ça aussi, de l'intelligence. Et ils se sont rendus compte que la télévision est arrivée dans les foyers en même temps, dans la même période où les notes ont eu tendance à baisser. Alors la télévision, elle a colonisé en moins de 10 ans, 90% des foyers aux USA. Ils se sont rendus compte que la chute des résultats corrélait exactement avec le pourcentage de foyers qui étaient équipés en télévision. Et quand ils l'étaient tous, eh ben la baisse a totalement cessé. Pour le moment, c'est le seul facteur qu'ils ont trouvé qui permet d'expliquer cette baisse assez sensible et assez effective des résultats aux entrées en université. Alors certains pourraient dire, oui, moi j'ai regardé la télévision, et moi j'ai réussi à faire Polytechnique ou Sciences Po, tout ce que vous voulez, ça m'a pas tué, quoi. Alors certes, c'est totalement vrai, hein, on l'accorde à tout le monde, sauf qu'en fait c'est une moyenne qu'on peut baser sur un peu toute la population. Si on se base aux moyennes qui sont aujourd'hui le barème des notations dans certaines écoles, on se dit que finalement on peut faire des études, mais sauf que c'est peut-être le niveau général qui a baissé, le niveau de tout le monde. C'est en fait Demurgel met en avant en disant, si jamais on regarde les résultats d'aujourd'hui, oui certes certains font plein de bonnes études, mais on se dit, si on s'amusait à comparer les résultats de certaines sections aujourd'hui et on compare les mêmes sections d'il y a 40 ans où il n'y avait pas encore la télévision dans les foyers, on se rendrait compte que les résultats et les questionnaires et tout un tas de choses seraient difficiles à comparer, et on se rendrait assez rapidement compte que les personnes d'il y a 40-50 ans avaient des résultats qui étaient peut-être beaucoup plus probants que ceux qu'il y a aujourd'hui, malgré ce qu'on peut croire. Alors je vais laisser parler Demurgel 5 minutes. Et lui, il va nous parler du développement du langage chez l'enfant par le biais des DVD qui sont mis en vente, notamment de plus en plus. On l'écoute.
Donc les effets de la télévision sur le développement du langage. Pourquoi ? Parce que c'est pas le tout de le dire, faut le montrer. Ça, c'est ce que nous dit l'industrie. Alors le jour, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais moi qui m'éclate. Oui, je suis grossier, parfois je suis désolé. Hein. J'avais une mère allemande, alors elle ne faisait pas la différence entre les bons et les mauvais mots. Donc elle m'a tout filé dans la besace et maintenant j'ai un peu de mal aussi. Donc, ce que nous dit l'industrie, l'autre jour, il y avait un gars qui était, au supermarché avec sa femme. C'était à Marseille. Il avait un maillot de l'OM. Je suis tous au foot à Marseille. Et donc sa femme trouve un DVD, elle le prend, et c'était un truc pour le développement du langage. Elle lui dit, oh regarde pour la petite. Alors, le mec enthousiaste, il prend le DVD, il le retourne, il voit le prix. T'es sûr ? Oh, je sens pas bien. Et là, le gars, il a pris une volée de bois vert. Gros con, il y en a que pour ton foot, père indigne, etc. Enfin, moi, il se faisait fouetter dans le magasin. Donc, il a pris le DVD, il l'a mis doucement dans le caddie et je n'ai pas vu la suite des opérations. Et vraiment, ce qui, moi, m'a frappé, ben, c'est pas tellement ce pauvre garçon, t'es sûr ? C'était cette femme qui pensait vraiment, en toute bonne foi, que si elle n'offrait pas ce DVD, que si elle n'exposait pas sa fille à ce DVD, il y allait y avoir un préjudice pour son développement langagier. Et voilà ce qu'on nous raconte. C'est plein de poésie, alors c'est quelques exemples parmi d'autres, mais... Alors, Brainy Baby, là, Brainy, ça veut dire cortiqué, là, avec un gros cerveau, Brain, c'est cerveau en anglais. Alors, vous allez développer le langage et la logique. Et puis, Baby Einstein, porte bien son nom, pauvre Albert. Enrichit le vocabulaire de l'enfant à travers la beauté de la poésie, de la musique et de la nature. Franchement, vous êtes parents, vous voyez ça, vous êtes vraiment indignes si vous achetez pas le truc. Hein. Baby TV, alors les histoires et les rimes de la série Lenny contribuent à l'apprentissage du langage. Donc voilà ce que dit l'industrie. Voilà ce que montre la recherche. Juste un exemple, une étude parmi plein. Alors cette étude, les chercheurs se sont dit, bah tiens, on va voir si ça marche ces trucs, parce qu'a priori, ouais, why not ? Donc... Ils ont pris des enfants, ils sont allés dans des familles avec des enfants de 12 à 12 mois, ils ont fait trois groupes. Un premier groupe, ils sont rentrés, ils ont dit bonjour à la maman, et ils leur ont dit on revient dans un mois, salut. Un deuxième groupe, ils sont rentrés, ils ont dit bonjour à la maman, ils ont filé une liste, ils ont dit voilà 25 mots, alors des mots de base, hein, table, chaise, tout ça. On revient dans un mois, il faut que vous les ayez enseignés à votre enfant. Salut. Un troisième groupe, bonjour madame, voilà un DVD, montrez-le à votre enfant, ça va faire du bien à son langage. Et dedans, il y avait effectivement, alors c'était 40 minutes le DVD, franchement ils en ont bouffé les gosses. 25 mots répétés 3 fois, DVD. 5 sessions par semaine pendant un mois. Les gamins, ils ont entendu 60 fois chaque mot. Franchement, un gamin dans la vie courante, quand il entend 4 fois un mot, s'il l'a pas enregistré, soit faut lui faire greffer un cerveau, soit faut consulter. Un gamin, très vite, il apprend. Je veux dire, les mots, ça rentre, il l'entend 3, 4, allez, 5, 6 fois. 60 fois. Il n'y a pas un gamin qui a entendu 60 fois un mot et qu'il ne connaît pas. Surtout des mots courants comme table, chaise, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, quand ils sont revenus, les gamins dont les parents avaient une liste de mots à leur enseigner, tous ces gamins-là ont appris les 25 mots sans problème. Ceux qui avaient le DVD, ils n'ont pas appris plus de mots que ceux qui n'avaient rien fait, puisqu'on est revenu les voir un mois après sans vraiment, c'est un groupe contrôle qui n'avait rien fait, un groupe normal. Ils n'ont pas appris plus de mots que ce groupe-là. Non seulement ils n'en ont pas appris plus, mais ils en ont appris moins. On peut se dire, ouais, pas plus, mais moins. Tu charries, garçon. Imaginez la situation. D'abord, le langage, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment c'est de l'horlogerie, c'est de l'orfèvrerie évolutive. Je sais pas comment appeler ça, c'est un miracle. Je sais pas si vous avez déjà vu une mère parler à son bébé. franchement, vous vous marrez, mais alors le bébé fait ouin, puis vous avez la mère fait ouin, etc. On a l'impression au début que c'est le bébé qui imite, mais pas du tout. La première année de la vie, c'est la mère qui imite le bébé. Le bébé, il fait un bruit, et la mère, elle lance la machine. Ouin, et elle se jette dessus comme une morte de faim, elle fait ouin au bébé, ça dure comme ça. Ça lui apprend l'échange, ça lui apprend les mots, ça lui apprend sa forme, l'appareil phonatoire, là. La télévision, elle fait pas ça. Le bébé fait ouin, et la télévision, elle continue son affaire. Et surtout, plus grave, vous avez la... On est très forts, nous, les humains. J'en vois au fond qui dorment, c'est pour ça que je le dis. On est très forts, nous, les humains, pour savoir où regardent nos congénères. À quelques degrés d'près, au dixième de degré, on sait exactement où se porte le regard de notre voisin. C'est pour ça que si vous vous promenez avec madame dans le bus et que vous espérez tranquille pouvoir regarder la voisine, ça marche pas. Parce qu'on le voit. Je sais, j'ai testé. Et donc la mère, quand le bébé regarde un objet, elle nomme cet objet. Si elle regarde la chaise, elle dit chaise. Si elle regarde la table, elle dit table. Mais la télévision, vous avez la table qui sort du sol, là, dans cette vie. Et la télévision, elle dit table. Mais si le gamin est en train de regarder la chaise, vous pouvez toujours vous gratter. Et le coup d'après, la télévision, elle dit encore table, mais il est en train de regarder le pot de yaourt. Vous étonnez qu'après, dans les neurones, le gamin, il s'y retrouve plus. Donc la télévision, non seulement ça ne marche pas, mais ça ne peut pas marcher. Et ça ne peut pas marcher, et ça a des déficits. Ils ont fait une étude à long terme sur les gamins qui utilisaient ça. Une heure par jour de ces programmes éducatifs qui vont les rendre super intelligents et qui vont développer le langage et qui vont nous faire des Einstein à tous les coins de rue. Et c'est 10% de lexique en moins. Il y a plein d'études qui montrent que les déficits précoces, alors c'est comme pour la lecture, mais les déficits précoces du langage, on a toutes les peines du monde, quand c'est possible, à les rattraper plus tard. Donc ces 10%, franchement, vous allez ramer et vous n'êtes pas sûr de les choper. Parce que l'ontogénèse, c'est un truc... À part pour certaines fonctions comme l'attention et encore, il faut développer le départ pour pouvoir développer la fin. Mais quand le train, il est passé, il est passé. Vous n'avez pas le deuxième, il n'y a plus de cadencement dans l'autogénèse. C'est cadencement unique. T'as raté. Donc, 10% de lexique, c'est énorme, 10% de lexique, à cet âge-là.
Et oui, vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts. C'était Michel Desmurgés lors d'une petite conférence qu'il a fait, je ne sais pas où d'ailleurs, et qui parle du développement du langage chez les enfants, et donc qui parle d'une expérience qui a été menée par des scientifiques qui ont donné pour mission à certaines familles de soit d'apprendre des mots par le biais d'un DVD, soit qui n'ont rien dit à la famille, ou alors qui ont demandé clairement à la maman d'apprendre, ou à la maman ou au papa d'ailleurs, d'apprendre les mots à leurs enfants. Et les résultats qui sortent sont assez édifiants. En gros, on apprend moins de mots quand on est exposé devant un DVD qui est censé nous apprendre des mots que lorsque l'on ne fait rien de ce genre. Voilà, c'est assez frappant. Alors, il y a eu d'autres études sur les enfants qui regardent la télévision. Hein. La télévision du tout venant, c'est genre les programmes jeunesse et toutes ces choses-là. Ils se sont rendus compte que 2 heures par jour de télé entre 15 et 48 mois, si c'est le cas, hein, ça veut dire que ça, grosso modo, en plus, c'est la moyenne. Hein. En gros, les enfants de 15 à 48 mois, aujourd'hui, ils regardent à peu près 2 heures la télévision par jour. S'ils le font, vous multipliez par 3 le risque que ces enfants aient un retard de langage. Si vous avez mis vos enfants devant la télé avant un an, en France, c'est 70 à 80% des gens qui le font, ça. Et pas forcément 2 heures, hein, juste que vous le mettiez quelques minutes chaque jour. Si vous l'avez fait avant un an, et ça suffit pour rentrer dans la stat si vous le faites juste 5 à 10 minutes par jour. Hein. Et là, si vous le faites avant un an, ça multiplie par 6 le risque de retard de langage chez votre enfant. Il y a une étude américaine de Hart et Risley, hein, excusez-moi, je prononce peut-être mal, qui ont suivi des dizaines de familles de milieux sociaux très différents. Ils se sont rendus compte que ceux qui développent le langage, c'est le nombre de mots que l'enfant entend entend et prononce, hein, dans son cercle familial ou dans la vie en général. C'est ça qui développe son langage. Alors, du nombre de mots entendus, ils ont réussi à déduire et à prédire ce que les enfants allaient devenir à 9 ans. Et même, ils ont réussi à prédire les résultats qu'ils allaient avoir au niveau scolaire, grosso modo, hein, et leur QI, juste en entendant le nombre de mots qu'ils ont entendus dans la vie, dans leur cercle familial. Tous les mots qu'ils ont entendus avant 3 ans, hein, qui ont été mesurés et quantifiés. Et on se rend compte que donc c'est très lourd de conséquences qui se passent avant 3 ans pour lorsqu'ils auront 9 ans, puisque les tests qui ont été étudiés sur le QI et les résultats scolaires étaient étudiés à 9 ans, donc très longtemps après que ces études aient été faites sur eux et les mots qu'ils avaient entendus avant 3 ans. Et forcément, ils se sont rendus compte que quand il y avait la télé, les gens ne parlaient plus. qu'il n'y avait plus d'échange, quelle que soit la personne qui la regarde, hein, que ce soit les enfants ou machin ou papa, ou, bah, quand papa ou les enfants ils sont devant la télé, bah, ils discutent plus, ils regardent la télé, ils se parlent pas. En moyenne en France, la télé est allumée 6 heures par jour dans un foyer, hein, peu importe qui c'est qui la regarde. Et ils se sont rendus compte que s'il n'y a pas la télé, un enfant va entendre environ 13 500 mots par jour. C'est un chiffre approximatif, hein, mais c'est grosso modo, c'est une moyenne, c'est à peu près ça. Et si jamais dans le même foyer il y a la télévision, eh ben, ils se rendent compte que l'enfant n'entendra plus que 10 000 mots à peu près. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'enfance, ce sont des millions de mots qui n'auront pas été entendus par l'enfant, et plein de fois où il ne se sera pas, il sera pas sollicité à parler, puisque toute la famille sera devant la télé. Alors, ça veut dire que, en fait, lorsqu'il y a la télévision dans un environnement, on entend 25% de mots en moins, ce qui est quand même assez énorme pour le développement langagier. Les études montrent que 70% des mots entendus par l'enfant viennent de la maman, hein, ça c'est des études sérieuses, hein, et le reste viennent du père, ce qui est expliqué en partie par le fait que souvent les hommes ont tendance à regarder plus la télévision, donc ils parlent moins. Dans ces comparaisons, ils se sont rendus compte que les milieux défavorisés, où on parle moins et donc on est plus exposé à la télé, etc., les enfants qui sont de ces milieux défavorisés entendent moins de mots que dans les milieux favorisés, puisqu'ils sont moins sollicités à parler. Et que si jamais on s'amuse dans un milieu défavorisé et un milieu favorisé à venir mettre une télé dans le milieu favorisé, eh ben la chute d'occurrence de mots qui sont entendus est équivalente au fait de passer d'un milieu favorisé à défavorisé. Alors je précise, j'explique un peu mieux parce que c'est un peu confus. En gros, si vous prenez un milieu social aisé où le langage se développe plutôt bien, où on parle beaucoup, où il y a beaucoup d'échanges, si jamais vous mettez la télévision dans ce milieu aisé, eh ben c'est le nombre de mots entendus va tellement baisser que ça en revient à être dans un milieu défavorisé en fait. Les résultats seront les mêmes au niveau des mots utilisés. Grosso modo, la télé dans un milieu favorisé le rend défavorisé au niveau de la richesse de langage. Tout simplement parce que quand il y a la télé, eh ben on joue plus avec les enfants, on parle pas, on reste un peu dans sa bulle et il n'y a pas trop d'échanges. Alors voilà pour ce soir, hein, du coup le sujet est très très dense, c'est pas évident d'arriver à faire tout ça en quelques émissions. La semaine prochaine on va s'exiler de ce sujet là, on va abandonner un peu la télévision, on va parler de la laïcité la semaine prochaine et il y aura un invité avec moi. Jules sera avec moi la semaine prochaine pour parler de la laïcité. J'espère que vous serez à l'écoute. Et la semaine qui suivra encore après, et ben nous reprendrons ce fameux thème de la télévision. Et puis voilà. Donc est-ce que on va se passer un petit morceau ou pas avant la fin? Ouais, on va se passer un petit truc. On va se passer un morceau de Brassens en hommage entre guillemets à tout ce qui a été dit dernièrement, hein, suite à la mort de Rémi Fraisse notamment. Il y a certains politicards qui ont osé dire que c'était débile de mourir pour des idées. Alors on écoute cette petite musique de Brassens.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean Bouche d'Or qui prêche le martyr. Le plus souvent, d'ailleurs, s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire. C'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice. Les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices. Mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes. Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres. La vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante. Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente.
Et voilà, c'était Brassens, Georges Brassens, avec Mourir pour des idées. Eh bien, c'est terminé pour ce soir. Les yeux grands ouverts s'achèvent. Il est 00:11. Je vous souhaite à tous une excellente nuit, une excellente soirée. Je vous rappelle que vous pouvez donc suivre l'actu de l'émission sur le blog de Radio Canu des yeux grands ouverts. Donc vous allez sur le site de Radio Canu et vous cliquez sur les yeux grands ouverts. Vous serez redirigé directement sur le blog où tous les podcasts sont disponibles. Il y a également la page Facebook, donc les yeux grands ouverts tout au pluriel, tout attaché. Vous tapez, vous cliquez j'aime et tout sera affiché dans votre fil d'actu. Et puis n'hésitez pas à envoyer vos dons à Radio Canu, comme ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Toutes les infos sont sur le site internet. Et bien, je crois que c'est tout pour ce soir. La semaine prochaine, on parle de la laïcité. La semaine d'encore après, on reparle de télévision. Et je vous souhaite à tous une excellente nuit, amour et révolution. Et à la prochaine. Salut, ciao.
Le jour qu'avec la rosée, d'ailleurs l'odeur lui donne déjà la nausée. Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas ou son casier, pose le gueuse du casse-dalle, enfile sa blouse et s'assied. Enlève ses chaussures, met les chaussures de sécurité, prend ses gants, son cutter, quelques pièces pour le café.